finis à la fin de Samaritaine. Et je propose qu'on reprenne les versets dans Jean, les uns après les autres, les versets où il est parlé d'heure. Alors, c'est dans Jean 2, au verset 4. Jean 2, au verset 4. Le troisième jour, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Que veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Fais tout ce qu'il vous dira. » Et après, donc, on sait qu'il a, changé l'eau en vin. Ce verset, pour moi, ça a toujours été, ce passage a toujours été un peu étonnant parce que je suis étonné de voir comme Jésus parlait à sa mère comme une femme. Il dit femme, il ne dit pas maman. Et là, en lisant ce passage, il faut voir comment il commence. Il commence le troisième jour des noces en Cana, au Cana de Galilée. Et juste avant, le Seigneur a dit, maintenant, vous allez voir le ciel ouvert et les anges de Dieu qui montent et descendent sur le Fils de l'homme. Et ce verset correspond au tout début, et ce miracle correspond au tout début des 3 ans de ministère du Seigneur Jésus. Et là, il parle du troisième jour. Et c'est un peu comme si le Seigneur disait, ben voilà, je commence mon ministère. Il va durer 3 ans. Et il parle souvent de 2 jours, c'est un peu comme, c'est 3 jours. Et là, il va se projeter au moment de la fin de son ministère où la croix, l'œuvre de la croix est accomplie et où le vin peut être bu parce que c'est le vin de la résurrection. Ça nous parle de la joie de la résurrection. Et c'est pour ça, je pense qu'il dit, mon heure n'est pas encore venue. Et puis aussi, il veut aussi montrer à ce moment-là qu'à partir de maintenant, comme il dit dans un autre verset, il dit « Mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, c'est vous, c'est chacun. » Et il n'est plus dans la relation qu'il a acceptée et dans laquelle il a vécu pendant les 30 premières années de sa vie, c'est-à-dire une relation d'un être humain anonyme. Il était comme fils pour les, enfin, on sait bien qu'il est fils de Dieu, hein, il est l'Esprit Saint, mais il était officiellement fils de Joseph. Joseph étant certainement décédé, mais il était fils de Marie. Il était bien le fils de Marie, et c'était bien sa mère. Mais à partir de ce moment-là, il commence une nouvelle période, et cette période, eh bien, il n'y a plus ces relations de père, de mère, de frère, de sœur, restreinte à la famille, mais une relation avec avec tout le peuple. Il était à la disposition du peuple et il changeait de statut quelque part. Il commençait son ministère et son rôle de fils de Dieu. Fils de Dieu et son rôle officiel de Messie. Voilà, peut-être pourquoi il dit ça, pourquoi il dit, mais que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. Et effectivement, son heure, on va le voir dans les autres versets, dans plusieurs versets, quand le Seigneur dit mon heure, c'est le moment où il allait donner sa vie. C'est ça, son heure. On se rend compte un petit peu que, est-ce qu'on réfléchit quelquefois, que le Seigneur qui est l'Éternel, il est bien l'Éternel, c'est pas, il s'est fait homme, mais il est l'Éternel. Il n'est pas soumis au temps. Il n'y a jamais eu de temps pour l'Éternel. Le temps, il a été créé pour l'homme, en quelque sorte. Il a été créé dans le but de l'homme, de la terre, de l'homme, de la création que nous connaissons, de la création visible. Il y a beaucoup d'invisibles dans cette création, donc dans la création que nous connaissons. Eh bien, le temps est arrivé à ce moment-là. Et le temps, Dieu a accepté de se soumettre à ce temps. Et je pense que ça a été quelque chose de très difficile pour nous. Et on voit tout au long de son ministère, justement, que le Seigneur, il y avait ce temps qui était là, ce temps qu'il avait, il fallait que dans ces 3 ans, il accomplisse tout ce que le Père lui avait demandé de faire. Et surtout, il y avait cette finalité qui était la croix et qui était quelque chose de difficile pour lui, de plus que difficile d'ailleurs. Mais alors là, il se projette au-delà. Il est parlé des 3 jours, c'est symboliquement, je pense, ces 3 jours, c'est ces 3 ans. Et il va au-delà, à la fin, comme si ces 3 ans étaient terminés. Et puis là, il transforme l'eau en vin. Et le vin de la joie, le vin du résultat de l'œuvre accomplie. Après ça, donc, il y a ce chapitre 4, verset 23. Donc ça, c'est la femme samaritaine qu'on connaît bien, le puits de Sichar. Certains ont dit même Jésus, c'était en quelque sorte, c'était l'homme du puits de Sichar. On voit toute son humanité, toute sa bonté, toute sa tendresse, toute sa grâce, toute sa compassion dans ce puits de Sichar. Pas ce puits de Sichar. Déjà, il était en Samarie, il n'était pas dans le pays d'Israël. Samarie, il y avait un conflit entre les Samaritains et les Juifs. Il y avait tout de suite la femme, d'ailleurs, elle lui dit, mais où est-ce qu'il faut, sa question, c'était où est-ce qu'il faut adorer? Les Juifs disent qu'il faut adorer Jérusalem. Nous, on adore à Samarie, enfin, différemment. Il y a beaucoup de choses qui sont marquantes dans cette rencontre. Il va exprès. Il sait qu'il va passer par là, il sait qu'il va rencontrer cette femme. Il passe, les Juifs faisaient tout le tour pour aller en Galilée, passer par Samarie, là, il passe par Samarie. Il s'arrête, à cet endroit. Il a soif. Il est dans sa position d'être humain, il a soif comme n'importe qui aurait eu soif, il est fatigué comme n'importe qui aurait été fatigué. Il va pas boire n'importe où, il va pas s'asseoir n'importe où. Il vient là, en plein midi, dans la chaleur, et il sait qu'il y aura cette femme qui sera là. Cette étrangère, cette femme aussi qui était pas très nette dans sa vie, puisqu'elle avait eu Sainte Marie. On le dit, après c'est pas marqué, mais on dit qu'elle venait là, alors la plus chaude, un petit peu, pour être sûre de rencontrer personne, parce qu'elle veut tout le monde, qui elle était, sa façon de vivre, etc. C'est peut-être ça. Et Jésus, il n'a pas peur d'aller à cet endroit, à ce moment-là, en pleine chaleur, s'arrêter près d'elle. Et il lui dit pas tout de suite, attends, moi, je suis le Messie, c'est moi qui vais te donner à boire. Tu vas voir, j'ai pas besoin d'aller chercher l'eau dans le puits, moi, je suis au-dessus de ça. Non, il lui dit, donne-moi à voir. C'est beau de penser ça, de voir ça, le maître de l'univers, l'éternel qui est là, et qui demande à boire à cette femme. Tout simplement. Et après, s'ensuit cette conversation. La conversation qu'on connaît, je relis pas tout le texte, hein. Mais il vient expliquer déjà dans le contexte social et aussi le contexte de l'époque, hein. Il va voir une femme méprisée, une femme dans un peuple méprisé, et en plus c'est une femme, déjà dans un pays où les femmes étaient vraiment considérées comme pas grand chose. Et qu'est-ce qu'il va lui dire? Une des plus grandes révélations que le Seigneur ait jamais faite. Il va lui dire, le Père cherche des adorateurs. Il adore en esprit et en vérité. Qu'est-ce qu'on est venu ce matin faire? Grâce à Dieu, par la bonté de Dieu, du Seigneur, on est venu comme adorateurs. Il nous a fait la grâce absolument extraordinaire de nous donner le Saint-Esprit et de pouvoir l'adorer en esprit et en vérité. Et tout ça, c'est les conséquences de ce que Jésus a fait, et c'est à la suite de ce que Jésus a dit à cette femme. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit ce verset donc, qu'on voudrait souligner là. Mais alors viens, et elle est déjà là, les vrais adorateurs, adorés, le Père, en esprit et en vérité. Alors viens, et elle est déjà là. Vous voyez, le Seigneur était là, et dès l'instant où il était là, l'heure de l'adoration était déjà là. Il ne dit pas, elle sera là dans 3 ans, dans le fini du ministère. Elle est déjà là. Déjà, tout de suite, cette femme pouvait l'adorer. Et pendant des siècles, grâce à la venue de Jésus, à son œuvre accomplie, eh bien, on peut être des adorateurs. Et quand on sait à quel point c'est précieux pour le cœur de Dieu, il parle du Père, là. Le Père, c'est pas fréquent dans la parole de Dieu, que Dieu soit le Père. Ça arrive. C'est quoi, il y a le Père, mais là, quand même, il lui dit ça à elle. Il lui dit, c'est un Père. Ce Dieu que tu adores, que tu ne connais pas, tu sais pas où il faut l'adorer, tu me poses ces questions. Mais ce Dieu, c'est un Père, c'est ton Père. Et tu peux l'adorer. Dès maintenant. C'est maintenant. L'heure, elle est maintenant. Et pour chacun de nous, elle est maintenant. C'est pas plus tard, c'est maintenant. L'heure vient et elle est déjà là. Que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est magnifique, ça. Et après, on voit quel bon témoignage, elle va dans son village, elle va parler à tout le monde. Et première chose qu'elle fait, elle dit, un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, c'est bien qu'elle avait un problème dans sa conscience. Première chose qu'elle dit, et puis elle ramène, elle est convertie à un village par son témoignage. L'adoration, c'est la relation qu'on a avec Dieu. Elle prime tout, elle est primordiale. Dès l'instant où on est réellement ses adorateurs, ou réellement dans notre cœur, c'est pas que le dimanche, hein, c'est tout le temps, dans notre cœur, en relation avec le Père, eh bien, on aura cette abondance du cœur qui fait que notre bouche parlera et qu'on pourra témoigner. Après ça, donc au chapitre 5, au verset 25, chapitre 5, verset 25. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà là. Il dit la même chose. Où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Alors après, je ne vais pas lire tout le contexte, après ce sera trop long, je vais trop. Mais là, on va prendre ce verset simplement. Il dit, mais l'heure vient, elle est déjà là. Les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. C'est pareil, on entend la voix du Fils de Dieu. Quand l'Évangile est prêché, on entend la voix du Fils de Dieu. Et l'heure vient, elle est déjà là. C'est pas plus tard, c'est maintenant. Et ceux qui sont morts, ceux qui sont morts dans la faute et dans le péché, ils vivront. Ceux qui l'ont entendu vivront. Les morts entendront la voix. Les morts, ceux qui sont pécheurs, on est comme morts. On entend la voix et on vit. Et l'heure, elle est déjà là, elle est maintenant. Ça, c'est ce qu'on devrait pouvoir proclamer et dire. Attention, leur vient, mais elle est maintenant. Moi, cette semaine, j'ai discuté avec quelqu'un et puis je lui ai parlé du parcours Alpha. Et je lui ai dit, je lui explique quoi. Donc, on a fait un parcours Alpha, c'est pour parler de Dieu, de Christ, etc. Il dit, ouais, mais tu sais, moi, en ce moment, j'ai d'autres préoccupations. J'ai mon travail qui me prend beaucoup, j'ai mon fils qui me prend beaucoup, je dois m'occuper de mon fils, là. J'ai pas la tête à ça. J'ai dit, ouais, mais. Bon, j'ai bien assisté, peut-être qu'il viendra. C'est Bruno, hein, pour ceux qui le connaissent. Bruno, tiens. Et il m'a dit, écoute, bon, peut-être je viendrai quand même. Voilà, espérons. C'est l'heure vient, elle est maintenant. C'est pas plus tard, parce qu'il me dit, chaque chose en son temps. Je lui dis, ouais, mais tu sais, on ne vit pas forcément éternellement sur la terre. Par contre, on vit éternellement après, et c'est important de préparer cette vie éternelle qui est tellement longue par rapport au passage sur la terre. Eh bien oui, puis j'ai ma sœur qui s'occupe du diocèse, de je sais pas où, qui est à fond, qui est très très croyante, etc. Écoute là aussi ta sœur. C'est elle qui a raison. Voilà. Après ça, au chapitre 7, au verset 30. Alors après, il parle de son heure. Il y a l'heure, en général, il y a son heure, comme j'ai dit un peu au début. 7, verset 30. Il cherchait donc à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Voilà, c'est pas le Seigneur qui parle lui-même, mais c'est la Bible qui nous dit. Personne n'a mis la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Voilà, donc ça aussi, ça nous parle de la puissance, de la souveraineté de Dieu, du fait qu'il y a tout ce qu'on veut, tout ce qui se passe. L'homme a beaucoup de responsabilités, l'homme s'occupe de beaucoup de choses, fait beaucoup de choses. L'homme est en ce moment en train de détruire la planète, l'homme est en train de s'affoler à cause du virus, etc. Mais Dieu, c'est Dieu qui décide. Et quand l'heure est là, elle est là. Quand elle n'est pas là, elle n'est pas là. Et là, c'était pas son heure, c'était pas le moment. Donc, ils voulaient le prendre. Ils avaient tous une mission de le prendre. Les chefs leur avaient dit, allez-y, attrapez-le, faites le prisonnier. Ils n'y arrivaient pas. Ils n'y arrivaient pas. Ça paraît incroyable. Eh ben, c'est pas tout simplement. Son heure n'était pas encore venue. Et aussi, ça me fait penser aussi à cet épisode quand il était dans sa ville de Nazareth, puis qu'il dit la parole de soi, puis brusquement, il parle des étrangers qui peuvent être sauvés, etc. Ça plaît pas à ses concitoyens, ils le prennent, ils l'emmènent en haut d'une falaise, pour le jeter en bas de la falaise. Mais qu'est-ce qui se passe? Tout simplement. Quand Dieu s'occupe des choses, c'est ultra simple. Il passe là, au milieu d'eux, il s'en alla. Voilà. Bon, et bien là, ils ne pouvaient pas. Il n'y avait rien à faire, ils étaient à peu, mais ils ne pouvaient pas. Ils ne pouvaient pas. Vous savez, des fois, on fait penser à un truc. Ça me fait penser à un témoignage que j'ai écouté il y a pas longtemps, qu'on écoutait ici. Un musulman qui s'est converti, il était, c'est un Burkinabé, tiens. Je sais plus comment il s'appelle. Il doit être connu. Et c'est un musulman, il était musulman, il est en France, ses études, et puis il apprend que sa mère est malade, prête à décéder là-bas, il va, à l'époque, il pouvait voyager. Et là-bas, il a sa sœur, et donc la famille musulmane. En fait, sa sœur était chrétienne, mais il ne savait pas. Et la mère était mourante, et sa sœur l'emmène, il ne savait pas où elle l'emmène, et il s'arrête devant une maison, et puis elle lui dit, si tu veux, tu peux venir avec moi. Oh non, je reste dans la voiture. Non, non, mais viens avec moi, c'est des amis, c'est des amis. Et en fait, elle allait dans une église, une petite église. Mais qui n'avait pas une tête d'église, c'était une église évangélique. C'était comme une maison. Et lui, il arrive dans cette maison, puis il voit tout le monde comme ça, qui chante, qui regarde le plafond. Il dit, c'est quoi tous ces gens-là? Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se met comme ça, les bras croisés. Puis il attend. Il s'en fout. Et brusquement, parce que absolument incommensurable qui fait que ses bras s'écartent. Il ne peut plus les garder comme ça. Il peut plus s'attaquer ça. Regarde en l'air, et ses bras se lèvent comme il veut. Et il regarde en haut. Et qu'est-ce qu'il voit? Le plafond qui s'ouvre. Et il voit le ciel. Il voit Jésus. Et Jésus lui parle. Et il est rentré dans cette église. Il était musulman. Il était, il n'était pas chrétien encore. Il sort. Il est croyant. Il est enfant de Jésus, il est enfant de Dieu. Et là, je ne sais pas si c'est à ce moment-là que je réécoute le témoignage, mais je crois que c'est à ce moment-là que sa sœur, enfin, tous ses amis, ce qui s'était devenu ses amis chrétiens, d'un seul coup, ont prié avec lui pour la guérison de sa mère. Et sa mère, qui était mourante en phase terminale, a été guérie miraculeusement. Vous voyez, c'est beau, enfin. Bon, j'ai un peu dérivé là, mais ça, penser à ça, quand c'est l'heure de Dieu, quand c'est le moment de Dieu, ben, Dieu a accepté le moment où il voulait que ce grain devienne croyant. C'est beau. Et en plus, il est en France, hein, donc maintenant, au temps que je sache, il est pasteur, il prêche dans les églises, et j'ai écouté un témoignage il n'y a pas longtemps de quelqu'un qui a été converti grâce à lui, et qui maintenant est un des responsables de la chaîne de MCI, donc qui a... S'il est une conversion comme ça, à un moment donné, ça a des répercussions immenses. Dieu travaille, c'est merveilleux ce que fait Dieu. Et puis, donc alors, après chapitre 8, verset 20, c'était exactement pareil, c'est comme le verset qu'on a lu juste avant, 8, verset 20. Jésus dit ces paroles alors qu'il enseignait dans le temple, un endroit où était le trésor, et personne ne l'arrêta parce que son heure n'était pas encore venue. Donc, encore une fois, Dieu insiste bien, il dit, voilà, quand c'est pas son heure, c'est pas le moment. Chapitre 12, verset 23. Alors après, au chapitre 12, c'est encore plus poignant parce que on voit que c'est vraiment le moment où son heure approche, justement. Et là, le Seigneur, il est de plus en plus pris parce que sa vie a été très difficile sur terre, mais c'est sa mort qui a été plus difficile. Et donc, là, c'est chapitre 12, verset 23. Jésus leur répondit, l'heure où le Fils de l'homme va être élevé dans sa gloire est venue. L'heure où il va être élevé dans sa gloire est venue. Il arrivait tout près du moment où il allait donner sa vie. C'est un moment où on voit qu'il y en a qui voulaient lui parler, il y en a qui voulaient lui dire. Bon, je ne veux pas donner tout le contexte, c'est juste pour dire, voilà son heure approchée. Et alors on voit cette angoisse du Seigneur, déjà, c'est pas encore Gethsémané, mais l'angoisse, elle est déjà là. Le Seigneur dit, juste après, en vérité, je vous le dis, c'est le grain de blé tombé en terre, ne meurt pas, il reste seul, s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Là, on voit bien l'œuvre du Seigneur, là. Il meurt parmi fruits. S'il ne meurt pas, il reste seul. Celui qui aime sa vie la perdra, celui qui déteste sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un le sert, qu'il me suive, et là où je suis, là sera aussi mon serviteur. Si quelqu'un le sert, le Père le nourrira. Puis maintenant, brusquement, il y a une angoisse qui s'est dit, Seigneur, il a rassuré le sien, il parle, et il était toujours dans l'empathie avec son prochain. Avec les uns, les autres. Il pensait pas à lui-même, jamais, Seigneur. On voit toujours qu'il avait au-delà. Puis là, brusquement, ça nous prend. Il a quelque chose qui lui tombe dessus. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je, Père? Délivre-moi de cette heure. C'est le côté humain de Jésus qui parle. Délivre-moi de cette heure. Et puis tout de suite, il dit, mais c'est pour cela que je suis venu à cette heure. Père, révèle la gloire de ton nom. Une voix vers l'heure du ciel. J'ai révélé sa gloire et je la révélerai encore. Dieu est venu quelque part. Le Père est venu encourager son fils. Là où il y a de la foule, le Père est venu encourager son fils. Et puis, ils avaient entendu comme un tonnerre. Hein. Je crois que Jean-Claude l'a évoqué la semaine dernière. Il y avait quelquefois des choses que Dieu dit et c'est que pour celui à qui il le dit. Et même si c'est en public, vous voyez, quand Paul a eu sa vision, ils ont tous vu qu'il tombait, ils ont vu qu'il se passait quelque chose, mais ils n'ont pas entendu. Et puis là, ils ont entendu, mais qu'est-ce qu'ils ont cru? Ils ont cru que c'était un tonnerre. Donc un ange avait parlé. Voilà. Après, on va continuer au verset 27, mais je l'ai lu, je crois. Il répète encore, il dit, mais c'est pour ça que je suis venu à cette heure. Au chapitre 13, verset 1. Et là, on arrive vraiment à la dernière nuit. La fameuse nuit, le Seigneur donner la scène. Le Seigneur a parlé à ses disciples. C'était vraiment son testament, c'était ses dernières paroles. Les dernières paroles de quelqu'un, c'est toujours hyper important. Et au verset 1, avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde, il les aima jusqu'à l'extrême, ou jusqu'à la fin. Voilà. Donc, sachant que son heure était venue. Voilà, là, c'était vraiment le moment. Il fallait y aller. Et on a remercié le Seigneur de ne pas être descendu de la croix. On a remercié d'avoir été jusqu'au bout. Et ça a été les moments les plus difficiles, certainement. Il a été le plus tenté de reculer. À un moment, il dit, quand il était en procès, là, il dit à Pilate, mais tu sais, parce que Pilate dit, ben, j'ai le pouvoir d'être là, j'ai le pouvoir d'être condamné. Genre, il peut dire, ben, écoute, moi, ne me condamne pas, parce que, maintenant, il dit pas ça, il dit, tu n'aurais aucun pouvoir si on a été donné dans vous. C'est Dieu qui décide, toujours, c'est Dieu qui décide, mais l'homme a sa responsabilité. Ça n'enlève pas la responsabilité. Chapitre 16, verset 32. Alors là, on est toujours dans ces trois chapitres où il parle aux disciples la nuit de sa mort. Alors, 16, 32. Voici que l'heure vient. Et elle est déjà venue. Vous vous serez dispersés chacun de votre côté et me laisserez seul. Alors, viens, elle est déjà venue. Là, c'est encore un moment où il dit, elle est déjà venue. Parce que, elle vient, c'était une affaire d'heure. Et c'était vraiment un moment. Et vous serez dispersés chacun de votre côté et me laisserez seul. Il savait en plus le Seigneur qu'ils allaient tous partir et laisser tout seul. Déjà, j'ai de ces manières. Donc, juste après, il n'arrive pas à veiller avec lui, il n'avait pas pu veiller une heure avec moi. Et puis après, il s'enfuit. Il n'y a plus personne pour l'aider. Il est tout seul. Et il le sait à l'avance qu'il sera tout seul. Et puis, dernier verset, dans Jean, Père, l'heure est venue, chapitre 17, verset 1. Après ces paroles, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, et là, il commence à prier son Père. L'ultime prière de Jésus vers son Père, une des ultimes, parce que après, il y a eu Gethsémani. Il y a eu la croix aussi, il a prié. Il a dit, mais Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Vous vous rendez compte, la prière du Seigneur, sur la croix, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et là, il lève les yeux, et c'est un peu aussi une prière de pardon, parce qu'il parle de ses disciples, il voit qu'il les aime, il dit qu'ils ont été fidèles, alors qu'on sait qu'ils n'ont pas tellement été. Il les défend, il les confie à son Père. Père leur est venu, révèle la gloire de ton Fils, afin que ton Fils aussi révèle ta gloire. C'est vraiment le moment où Jésus se confie à son Père et il confie les siens à son Père avant d'aller sur la croix. Et il fait un peu, dans cette prière, il est un peu comme s'il était au-delà de la croix, si c'était déjà fait. Il a accepté. Il est vraiment dans un don complet de lui-même pour le salut des siens. Vous voyez, donc, là, c'est tous les versets que j'avais relevés dans l'évangile de Jean, où il est parlé de l'heure, son heure, ou notre heure. Mais attention, c'est important, l'heure de chacun, elle viendra. Mais quand on parle de l'heure de quelqu'un, c'est l'heure de sa mort. Nous, notre heure, ça sera la venue du Seigneur, probablement, parce que tout est en train de s'organiser pour qu'il vienne nous chercher, l'avenir bientôt. Ce sera une belle heure, ça. Ce sera une heure extraordinaire. Et même l'heure de la mort pour le chrétien, c'est un passage. Il y a un grand évangéliste, là, j'ai nommé son nom, qui est tellement Billy Graham, qui disait, si un jour quelqu'un vous dit que je suis mort, vous dites, Maintenant, elle est pas morte, il a déménagé. Vous connaissez cette parole. Ben voilà, quand notre heure sera venue, ce sera l'heure où on déménagera dans la maison du Père. J'ai demandé une chose à l'Éternel et je la rechercherai, c'est que j'habite tous les jours de ma vie dans la maison de l'Éternel pour voir sa beauté, pour m'enquérir de lui dans son temple. Ça, c'est un psaume. Et c'est pour tout de suite, on l'a chanté ça. Et puis, mais il y aura la réalité encore 10 fois plus belle, 10 fois plus merveilleuse. Quand je dis 10 fois, c'est pas 10 fois parce que c'est des milliards de fois, hein, certainement. Plus belle et plus merveilleuse, on sera dans la maison du Père et la maison éternelle, là-haut.